Chapitre 13 et dernier. N'eurent-ils pas la sotte idée de faire ensemble un voyage et d'aller visiter l'Italie? Hélas, leur amitié en revint aussi triste et aussi malade que des phtisiques qui reviennent des eaux. Pendant 4 mois qu'ils furent l'un avec l'autre, il n'y eut pas un rayon de soleil qui les chauffât de la même chaleur, pas une pierre qu'ils regardèrent d'un regard pareil. Henri se levait de grand matin, courait par les rues, dessinait les monuments, compulsait les bibliothèques, inspectait tous les musées, visitait tous les établissements, parlait à tout le monde. Jules, qui passait une partie de nuit à errer dans le Colisée, ne se levait qu'à midi et sortait ensuite sans idée arrêtée, sans aucun projet de rien voir, s'arrêtant pour contempler les mendiants dormir au soleil, pour regarder les femmes qui filaient sur le seuil de leurs portes, pour écouter les colombes broucoulant sur le toit des églises. Porté au hasard où le poussait son caprice, perdu dans ses songeries, il retournait 10 fois voir la même figure dans un tableau, et s'en allait ensuite sans connaître la galerie. Il aurait passé sa vie entière à voir ce qu'Henri voyait en un seul jour. Et ce qui fournissait 10 lignes à celui-ci, il lui aurait fallu tout un volume pour le dire. Henri rapporta un journal complet. Jules, seulement de temps à autre, écrivait quelques fragments de vers avec lesquels il allumait son cigare. Jules écoutait et Henri voyait. L'un s'inspirait et l'autre voulait s'instruire. Vivant en bonne intelligence et n'ayant de contestation sur aucun sujet particulier, ils étaient cependant l'un et l'autre dans une solitude complète, et ce qu'ils pouvaient échanger d'idées ne se faisait que par les mots les plus superficiels de leurs sentiments intimes, parce qu'ils auraient pu dire à tout autre, au passant, au premier venu. La vie se passe ainsi en sympathies trompeuses, en effusions incomprises. Ceux qui s'endorment dans la même couche y font des rêves différents. On rentre ses idées, on refoule son bonheur, on cache ses larmes. Le père ne connaît pas son fils, ni l'époux son épouse. L'amant ne dit pas tout son amour à sa maîtresse. L'ami n'entend pas l'ami. Aveugle qui, au hasard, tâtonne dans les ténèbres pour se rejoindre et qui se heurte et se blesse quand ils se sont rencontrés. Voilà comme leurs cœurs se séparèrent lentement, par la seule force des choses, sans cause immédiate, sans déchirement ni douleur, de même qu'un fruit mûr qui a subi des modifications insensibles depuis le jour qu'il fallait le manger jusqu'à celui où il disparaît en pourriture. À l'étroite union de leur jeunesse succéda une affection plus relâchée, plus facile, moins sujette à se dénouer que d'autres, moins apte aussi à grandir et à s'étendre. Nous ne pouvons pas rejeter complètement de nous-mêmes nos anciennes amitiés. Ce serait sauter trop de choses et se démanteler à plaisir. Mais ce respect égoïste, plus impie que la haine, est encore une illusion qui nous empêche de voir celle que nous avons perdue. Ils continuèrent donc à se communiquer leurs actions et leurs pensées, ne savant plus la cause de ce qu'il faisait, ne s'exposant plus les entrailles de ce qu'il pensait. Si Henri disait qu'il aimait, il ne confessait pas la force ou la faiblesse de son amour. Si Jules parlait d'une œuvre, il ne révélait pas tout son mépris ou toute son admiration, sûr d'avance qu'Henri ne la méprisait pas comme lui pour ses motifs, ne l'admirait pas au même degré ou par les mêmes côtés. Henri trouvait que Jules ne prenait pas assez de part à ses petits bonheurs, à tous ses projets d'ambition. Celui-ci était piqué qu'il ne s'associait pas davantage à ses plans et à ses travaux, si bien que l'un cacha sa vie et l'autre son esprit. Il causait toujours de femmes, d'art, d'avenir, mais Jules aimait trop la femme pour adorer les femmes. Aimait trop le sublime pour se plaire au médiocre, aimait trop aussi la gloire pour vouloir de l'estime. Henri ne s'était pas aperçu des dissidences profondes qui leur étaient survenues. Vous lui eussiez dit que son amitié d'autrefois était plus belle, qu'il ne vous eût pas compris. N'avait-il pas été habitué à toutes les phases de la passion dans son amour avec Madame Renaud? Et la pratique du sentiment ne lui avait-elle pas durci quelque peu l'épiderme du cœur, comme la marche durcit celui des pieds? Il avait senti jadis l'amertume de l'amour, comme Jules sentait alors celle de l'amitié, douleur plus forte, plus mordante, qui l'empêchait de souffrir d'une autre qui arrivait plus faible, résultat d'une passion moins violente. Pour Jules, qui comprenait la misère de cette sympathie, si banale maintenant, si vivace autrefois, il en eût été plus affligé sans doute s'il avait pu se ressouvenir quel homme il était lui-même dans ce temps-là, aussi bien qu'il se rappelait l'âme d'autrefois. Avait-il gardé quelque chose de cette époque regrettée? Pourquoi accuser Henri de ses changements, lui qui était si changé? N'étant plus les mêmes, quelle merveille donc qu'ils ne se reconnussent pas! L'intelligence de cette situation fit que Jules n'en éprouva pas autant de peine que s'il ne l'avait point comprise. Ce qu'ils sont maintenant, ce qu'ils font, ce qu'ils rêvent, est le résultat de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont rêvé. Chaque jour de la vie d'un homme est comme l'anneau d'une chaîne. L'un se rattache à l'autre, le suivant à celui qui vient après. Tous sont utiles et soudés ensemble. Mais que le chaînon qui se forme maintenant soit d'or ou de fer, les anciens n'en ont pas été plus beaux. Ce que l'on verra n'en seront pas pires, et l'ensemble n'en pèsera pas davantage. Aux hommes destinés à l'action, la Providence envoie de bonheur ce qui peut les y rendre habiles plus tard. Des passions, il faut agir, des intérêts qui demandent de la ruse, des aventures qui réclament leur énergie. Ils parcourent dans leur jeunesse un cycle pareil à celui qu'ils auront un jour à parcourir. Ils sentiront d'une manière plus générale ce qu'ils ont senti d'abord, appliqueront en grand ce qu'ils ont fait dans un cas particulier, dans une intrigue ordinaire, de même qu'on lit les grands traités de philologie après avoir lu les grammaires élémentaires. Giraud du Vivier après Noël et Chapsal, Matriac après M. Burnouf. Le premier amour d'Henri lui a fait goûter les délices des autres et tous leurs tourments. Il s'est fortifié d'orgueil, a souffert de vanité, enraciné qu'il était dans d'autres sentiments, se ramifiant à mille autres choses. Henri a appris la vie comme on devrait apprendre l'équitation, en commençant par monter des chevaux sauvages qui peuvent vous tuer du premier bond, mais qui vous feront voir en peu de temps comment il faut s'y prendre. Au début, il a été aimé, il s'est laissé aller à cet amour, il a voulu le rendre plus fort, et c'est sa douleur qui s'est accrue. Il a été jaloux d'un homme, il l'a quitté, il est tombé dans des maux plus grands. Il a éprouvé la misère, il l'a subi par deux fois, puis il a vu les outils dont il fallait se munir pour creuser sa mine, et il a songé à les acquérir. Il a assisté à la décadence normale d'une passion qu'il avait crue éternelle, et il a vu par les résultats qu'elle avait dû avoir lieu chez la femme qu'il avait aimée comme il l'avait éprouvée en lui. Son chagrin s'est passé, d'autres attachements sont survenus, ils se sont rompus plus vite encore, d'autres convictions sont arrivées, elles sont parties à leur tour, et il a retiré de tout cela une expérience multiple sur les femmes pour en avoir aimé, sur les hommes pour en avoir vu, sur lui-même pour avoir souffert. Il a gardé juste assez d'élan pour arriver au fait, assez d'amour même pour sentir le plaisir. Cette gymnastique a été assez rude pour le fortifier, mais pas assez pour l'énerver. Quant à Jules, il a été gêné d'abord dans son goût dominant, jeune qui a irrité sa gourmandise. Il a aimé, il a été trompé dans cet amour. Amour trompé, vocation trompée se sont confondus dans une douleur commune, se sont pénétrés de tendresse et l'un l'autre décorés de poésie. Il s'y est enfoncé davantage parce qu'il trouvait dans cette douleur place pour son cœur et pour sa tête, car elle alimentait son sentiment et son imagination. Savez-vous ce qui la rend si délicate sous le palais, la chair de ces pâtés truffés de Strasbourg dont vous vous gorgez en déjeunant? C'est qu'on a fait sauter sur des plaques de métal rougi l'animal qu'on vous destinait et qu'on ne l'a tué qu'après que son foie s'est assez tuméfié et gonflé pour qu'il soit devenu bon à manger. Et qu'importe son supplice pourvu qu'il ait accru votre plaisir. C'est aussi dans une lente souffrance que le génie s'élève. Ces cris du cœur que vous admirez, ces hautes pensées qui vous font bondir, ont eu leur source dans des larmes que vous n'avez pas vues, dans des angoisses que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que cela fait? Il fallait bien que l'animal fût mangé, que le poète parlât. Tant mieux donc qu'ils aient souffert dans leurs entrailles, si la chair du premier est exquise, et si la phrase de l'autre est savoureuse. En voulant écrire sa tristesse, elle s'est en allée. De son cœur, elle a débordé sur la nature et elle est devenue plus générale, plus universelle et plus douce. C'est là le secret de ce reflet sombre qui colore ses œuvres les plus splendides et donne à son burlesque même tant d'âcreté et de violence qu'il a quelque chose de tragique. De sa douleur particulière, il a contemplé toutes les autres. Et il a vu assez loin dans ce spectacle pour le pouvoir regarder toujours. Un moment, l'art l'a ébloui, ainsi que la tête tourne à ceux qui se trouvent à des hauteurs extraordinaires, et il a fermé les yeux pour n'en être pas aveuglé. Puis toutes les lignes ont repris leur place, les plans se sont établis, les détails ont sailli, les ensembles sont venus, les horizons se sont élargis, l'ordre qu'il a découvert a passé en lui, ses forces se sont réparties, son intelligence s'est équilibrée. Si les événements qui l'ont préparé à comprendre certaines idées, sans lesquelles il n'eût pas été ce qu'il est, eussent été suivis d'autres événements aussi sérieux, leur enseignement fût demeuré stérile. Il n'aurait pas pu déduire de son état antérieur son état présent. Et l'observation merveilleuse du moi se serait perdue dans l'observation minutieuse de l'existence extérieure. Il lui a fallu que la vie entrât en lui, sans qu'il entrât en elle, et qu'il pût la ruminer à loisir, pour dire ensuite les saveurs qui la composent. Il a subi toutes les perplexités de la pensée, depuis l'enivrement jusqu'à l'atonie, depuis le doute jusqu'à l'orgueil. Il a été méconnu, raillé, sifflé, abandonné de ses amis, outragé par lui-même. On a attribué ses dévouements à son égoïsme et ses sacrifices à sa cruauté. Il a échoué dans tous ses projets. Il a été repoussé dans toutes ses impulsions. Il a assisté à l'agonie de ses affections. Il a vu ses meilleures sympathies mourir sous ses yeux et il a gardé assez d'intelligence pour comprendre le cœur, assez de sentiments aussi, pour aller jusqu'au fond des idées. Henri, maintenant, est un homme de 27 ans, sachant porter le vin et l'amour, sans se griser ni se rendre malade. Il est souple et il est fort, il est hardi et il est adroit. Il se plie sous les circonstances quand il ne peut pas les plier à sa volonté. Son ardeur pour la richesse et pour le pouvoir n'ôte rien à sa générosité ni à sa gaieté. Il travaille et il va dans le monde. Il étudie et il chante. Il rit et il pense. Il écoute les sermons sans bâiller. Il entend dire des sottises sans lever les épaules. C'est l'homme dans toutes ses inconséquences et le français dans toute sa grâce. Il n'a pas de dégoût après l'orgie, ni d'amertume après le plaisir. Il ne redoute personne, mais il respecte tout le monde. À couvert, sous l'opinion, il se moque de chacun. Il croit en lui plus qu'aux autres, mais au hasard plus qu'à lui-même. Les femmes l'aiment, car il les courtise. Les hommes lui sont dévoués, car il les sert. On le craint parce qu'il se venge. On lui fait place parce qu'il bouscule. On va au-devant de lui parce qu'il attire. Il promène ses yeux dans un salon et du premier coup d'œil, il voit la femme qui sera sa maîtresse. Il le veut, elle le devient. Il n'a pas désiré celle qui peut-être eût résisté ou bien celle qui l'eût repoussé ne s'y est pas trouvée. Il convoite quelque chose et presque à l'heure prévue, il la saisit. Ce qu'il prévoit arrive, ce qu'il désire se réalise. Il a des amis de caractère et de profession différents qui lui parlent chacun de leurs passions ou de leurs manies diverses et auxquels il communique en retour ce qu'il a en lui de passions analogues et de propensions semblables. Il possède une voiture pour sortir quand il pleut et un cheval pour se promener quand il fait beau temps. Les mères de famille vendent sa moralité, les jeunes filles rêvent à sa belle figure, les hommes envient son esprit, le gouvernement sollicite son talent. L'avenir est à lui, ce sont ces gens-là qui deviennent puissants. Jules a 26 ans. Il a, dans les manières, l'air fatigué des gens qui ont éprouvé de grands chagrins, ou l'allure débraillée de ceux qui ont fait de grandes débauches. Il ennuie ou il irrite, il se tait ou il bavarde. Les libertins eux-mêmes se scandalisent de son cynisme, et les filles entretenues trouvent qu'il n'a pas d'âme. Il vit dans la société, dans la chasteté, rêvant l'amour, la volupté et l'orgie. Il ne désire pas plus mourir que vivre. Aussi la mort surviendra-t-elle sans l'épouvanter, comme il continue l'existence sans la maudire. Ses plus grandes joies sont un coucher de soleil, un bruit de vent dans les forêts, un chant d'alouette à la rosée. Une tournure de phrase, une rime sonore, un profil penché, une vieille statue, un pli de vêtements, lui donnent de longues extases. Il se mêle à la foule et il savoure la mélancolie qui s'élève des grandes cités. Il va dans les champs, sur les grèves, sur les monts, et il mêle son cœur aux brises, aux parfums, aux nuages qui courent, aux feuilles qui roulent. Il participe à la prière du prêtre, à la défaite des vaincus, à la fureur des conquérants. Il a du dédain pour les bourreaux et de l'amour pour les victimes. Il aime le bruit des encensoirs, l'éclat des sabres damasquinés, le sourire des femmes. Il ramasse les fleurs écrasées, il caresse les animaux, il joue avec les enfants. Il plaint la satiété du riche, comme la convoitise du pauvre. Il a autant de pitié pour les espérances que pour les dégoûts, autant d'indulgence pour le bonheur que pour l'infortune. Sans enthousiasme et sans haine, il s'attendrit devant ce qui est faible, admire la force et se prosterne devant la beauté. Est-il donc pauvre, est-il sans puissance, celui qui concentre dans son âme toutes les six richesses du monde, pour qui l'or est plus resplendissant et le marbre plus blanc, pour qui le luxe a plus d'illumination que pour ceux qui y vivent. La puissance a des forces inconnues aux puissants, le vin un goût ignoré de ceux qui en boivent, la femme des voluptés inaperçues de ceux qui en usent, l'amour un lyrisme étranger à ceux qui en sont pleins. Sa vie est obscure. À la surface, triste pour les autres et pour lui-même, elle s'écoule dans la monotonie des mêmes travaux et des mêmes contemplations solitaires. Rien ne la recrée ni la soutient. Elle paraît rude et dure. Elle est froide au regard, mais elle resplendit à l'intérieur de clarté magique et de flamboiement voluptueux. C'est l'azur d'un ciel d'Orient tout pénétré de soleil. Arrivé au haut de la pyramide, le voyageur a les mains déchirées, les genoux saignants. Le désert l'entoure, la lumière le dévore. Une âpre atmosphère brûle de sa poitrine. Accablé de fatigue et ébloui de clarté, il se couche agonisant sur la pierre, au milieu des carcasses d'oiseaux qui sont venus y mourir. Mais relève la tête, regarde, regarde, et tu verras des cités avec des donnes, des baumes d'or et des minarets de porcelaine, des palais de lave bâtis sur un socle d'albâtre, des bassins entourés de marbre où les sultanes viennent baigner leur corps, alors que la lune rend plus bleu l'ombre des bosquets, plus limpide l'onde argentée des fontaines. Ouvre les yeux, ouvre les yeux! Ces montagnes arides portent des vallons verts dans leurs flancs. Il y a des chants d'amour sous ces huttes de bambou et dans ces vieux tombeaux où les rois d'autrefois dorment tout couronnés. On entend les aigles crier dans les nuages, la clochette des monastères retentit au loin. Voilà les caravanes qui se mettent en marche, les conques qui descendent le fleuve. Les forêts s'étendent, la mer s'agrandit, l'horizon s'allonge, touche au ciel et s'y confond. Regarde, prête l'oreille, écoute et contemple, ô voyageur, ô penseur, et ta soif sera calmée, et toute ta vie aura passé comme un songe, car tu sentiras ton âme s'en aller vers la lumière et voler dans l'infini. Abandonnée, stérile aussi sur ses premiers plans, veuve de frais ombrages et de sources murmurantes, l'existence de Jules est calme comme le désert, sereine comme lui, riche comme lui d'horizons dorés, de trésors inaperçus. Elle renferme l'écho de tous les zéphyrs, de toutes les tempêtes, de tous les soupirs, de tous les cris, de toutes les joies, de tous les désespoirs. Des vertiges tournent dans sa pensée, des sentiments se meuvent dans son cœur, des lascivetés coulent dans sa chair. Il boit des torrents sans nom qui emportent l'idée au-delà d'elle-même, ou bien il se dilate à l'aise dans d'inépuisables océans dont il sonde les profondeurs, dont il explore les rivages. L'histoire s'étale dans son souvenir. L'humanité se déroule sous ses yeux. Il s'enivre de la nature. L'art l'illumine de ses clartés. À lui, toutes les poésies et toutes les harmonies, la seule poésie est la grande harmonie. À lui, le chant de toutes les voix, l'hymne de toutes les âmes, la forme de tous les corps. Il se pénètre de la couleur, s'assimile à la substance, corporifie l'esprit, spiritualise la matière. Il perçoit ce qu'on ne sent pas, il éprouve ce qu'on ne peut point dire, il raconte ce qu'on n'exprime pas, il vous montre les idées qu'on ébauche et les éclairs qui surprennent. Il va de l'œuvre à l'inspiration qu'il a créée et rêvant à ses filiations diverses comme un voile détaché qui court dans les cieux ou sur la surface bleue des mers, il flotte et remonte dans les espaces d'où elles sont parties pour retrouver le sillon perdu de ces feux descendus sur la terre et la source cachée de ces effluves venus jusqu'à nous. Du cèdre au prime vert, du serpent à la femme, du pâtre qui fait boire ses troupeaux au monarque qui conduit ses armées, des peuples qui bégaient leur nom aux sociétés qui se résument dans des lois, du rire aux pleurs, de la haine à l'amour. Il remonte les échelons, parcourt tous les chemins, se promène dans tous ces labyrinthes, s'inquiétant du moule premier de toutes ces formes, du type de tous ces visages, pourquoi ils naissent, comment ils vivent, dans quel but ils meurent, vers quelle fin ils se précipitent, s'ils renaissent ou s'ils s'éteignent. Il demande au palais détruit, dont le péristyle est vide, l'écho sonore des fêtes qui résonnaient sous ses voûtes et l'éclat des candélabres qui éclairaient ses murailles. Il cherche sur les sables abandonnés la trace des vagues géantes qui roulaient leurs monstres perdus et leurs grands coquillages de nacre et d'azur. Ils pensent aux amours oubliés de ceux qui sont étendus dans leurs cercueils, à l'agonie future de ceux qui se penchent avec des rires sur les bords de leurs berceaux. Sympathie qui entend les souffrances, miséricorde qui pèse les passions, scepticisme qui creuse les faits, il contemple la vie d'un regard tranquille, évoquant à lui, pour en comprendre le sens, le passé et tout son bruit, l'humanité et toutes ses tendances, Dieu dans tout son inconnu, l'âme dans tous ses rêves. L'univers est convoqué à son appel. Assis à l'écart, sur un tronc solitaire, comme un roi qui reçoit les tributs, il se console de sa tristesse en regardant le dais d'argent qui est sur sa tête, où se récréent des railleries qui surgissent du choc de toute cette foule et de l'ironie qui plane sur cet ensemble. Arrêtant l'émotion qui le troublerait, il sait faire naître en lui la sensibilité qui doit créer quelque chose. L'existence qui fournit l'accidentel, il rend l'immuable. Ce que la vie lui offre, il la donne à l'art. Tout vient vers lui et tout en ressort, flux du monde, reflux de lui-même. Sa vie se plie à son idée comme un vêtement au corps qu'il recouvre. Il jouit de sa force par la conscience de sa force. Ramifié à tous les éléments, il rapporte tout à lui, et lui-même, tout entier, il se concrétise dans sa vocation, dans sa mission, dans la fatalité de son génie et de son labeur, panthéisme immense qui passe par lui et réapparaît dans l'art. Organe de cette nécessité, transition de ces deux termes, il se considère dès lors sans vanité ni complaisance. Quelle petite place il se sent tenir entre l'inspiration et la réalisation. S'il fait cas de son talent, c'est en le comparant à celui des autres, mais non pas en l'admirant quant à sa beauté qu'il doit dire. Il aime davantage ses conceptions, mais à peine s'il se souvient de ses propres œuvres, plus insouciant encore sur leur destinée, une fois qu'elles se sont produites, qu'il était auparavant inquiet de leur naissance. À peine s'il se soucie de la gloire, ce qui le délecte surtout étant la satisfaction de son esprit, contemplant son ouvrage et le trouvant à sa taille. S'il en désire quelquefois, c'est parce qu'il lui semble alors que la gloire complète la grandeur et qu'il y ajoute quelque chose. C'est qu'il sent le besoin de rendre aux hommes ce qu'ils lui ont donné, de pénétrer leurs esprits, de s'incarner dans leurs pensées, dans leur existence, pour les voir vénérer ce qu'ils vénèrent et s'animer de ce qu'ils embrasent. Qu'importe le succès ? En est-elle moins belle la chanson du rossignol pour n'être point entendue ? En est-il moins suave pour n'être pas aspiré par des narines le parfum que les fleurs, habitantes des régions inaccessibles, laisse s'évaporer dans l'air et monter vers le ciel. Insoucieux de son nom, indifférent du blâme qu'il soulève ou de l'éloge qu'on lui adresse, pourvu qu'il ait rendu sa pensée telle qu'il l'a conçue, qu'il ait fait son devoir et ciselé son bloc, il ne tient pas à autre chose et s'inquiète médiocrement du reste. Il est devenu un grave et grand artiste dont la patience ne se lasse pas et dont la conviction à l'idéal n'a plus d'intermittence. En étudiant sa forme d'après celle des maîtres, et en tirant de lui-même le fond qu'elle doit contenir, il s'est trouvé qu'il a obtenu naturellement une manière neuve, une originalité réelle. C'est la concision de son style qui le rend si mordant, c'est sa variété qui en fait la souplesse. Sans la correction du langage, sa passion n'aurait pas tant de véhémence, ni sa grâce tant d'attrait. Presque abandonné d'Henri, l'ayant abandonné lui-même, et réduit à son unique personnalité, sans conseil, sans épanchement, sans public ni confident, quand il veut entendre l'harmonie de ses vers, ben il se les lit à lui seul, en se balançant dans leur rythme, comme une princesse paresseuse dans son amas de soie. Quand il veut voir jouer ses drames, il pose la main sur ses yeux, et il se figure une salle immense, large et haute, remplie jusqu'au faîte. Il entoure son action de toutes les splendeurs de la mise en scène, de toutes les merveilles des décors, avec de la musique pour chanter les chœurs et des danses exquises qui se cadencent au son des foires. Il rêve ses acteurs dans la pose de la statuaire, et il les entend d'une voix puissante débiter ses grandes tirades ou soupirer ses écrits d'amour. Puis il sort, le cœur rempli, le front radieux, comme quelqu'un qui avait une fête, qui a assisté à un grand spectacle. À propos de spectacle, ne te lève pas encore de ton fauteuil avant que je n'aie achevé jusqu'au bout celui que j'ai voulu te montrer ici, cher lecteur, regrettant que tu aies au moins le plaisir à la regarder que j'en ai eu à le faire mouvoir, et te souhaitant seulement pour l'avenir, quand tu ne sauras que faire, des heures aussi sereines que celles qui ont passé pour moi pendant que je noircissais ce papier. Allons, allons vite, que ce soit promptement fini, rangeons en rond tous les personnages au fond de la scène. Les voici qui se tiennent par la main, prêts à dire leurs derniers mots avant qu'ils ne rentrent dans la coulisse, dans l'oubli, avant que la toile ne tombe et que les quinquets ne soient éteints. Et Madame Renaud d'abord, qu'est-elle devenue? Qu'en a-t-on fait? Son mari est maintenant un véritable maître de pension, un simple marchand de soupe et de latin. Il a vendu son ancienne maison, renoncé à son système d'éducation particulière et s'est acheté un grand établissement où il reçoit des élèves à des prix plus modérés. Aussi le noble genre de l'institution que nous avons connue a-t-il été remplacé dans la nouvelle par un autre plus ordinaire et plus commun. Ce n'est plus la salle à manger, c'est le réfectoire, avec ses tables peintes en rouge et son carreau lavé tous les samedis. Il n'y a plus de jardin, on joue dans la cour. Une cour carrée, sablée, plantée de six tilleuls chétifs sur lesquels les écoliers écrivent leur nom. À quoi servirait un salon? Madame reste dans sa chambre et M. Renaud lui-même tient l'étude des grands. Émilie n'a plus de belles toilettes, ne va jamais au spectacle, ne reçoit personne. Enfermée toute la journée dans son appartement, à peine si on la voit à l'heure des repas. Elle a même persuadé à son mari de prendre une demoiselle de confiance pour surveiller le linge et peigner les petits garçons, ouvrage qui lui répugnait fort. Tous les dimanches, elle va à la messe. La dépense de la maison a considérablement diminué. On ne donne plus de soirée, cela ferait mauvais effet. M. Renaud se livre tout entier à son affaire. Il conduit lui-même ses élèves au collège et ne sort jamais que le soir, après qu'on est couché, sans doute pour faire un tour, pour prendre l'air. C'est une habitude, jamais il n'y manque. Ils vivent dans les mêmes termes et en aussi bon accord qu'au commencement de cette histoire. M. Renaud fera-t-il fortune? Bon, je n'en sais rien. Madame Renaud a-t-elle eu d'autres amants? C'est ce que j'ignore. Son amie Aglaé s'est mariée. Elle a épousé un médecin de village aux environs de Paris, qu'elle a séduit par ses cavatines italiennes et par ses grandes manières langoureuses, qui en est encore fort amoureux et qu'elle fait enrager en diable. Elle lui mange impitoyablement tout ce qu'il gagne. Le pauvre homme se crotte, s'échine et se casse, le cou par les chemins, tandis que madame, assise au coin d'un grand feu, dans une délicieuse bergère, lit le roman à la mode ou bien invite les dames de l'endroit à venir prendre le thé chez elle et à manger des gâteaux. Souvent aussi, elle fait des voyages à Paris, Rien que pour aller au concert et voir un peu ce qu'on dit de nouveau dans les arts. Elle y reste 8 jours toute seule avec sa femme de chambre, car lui a fallu une femme de chambre. Comme par le passé, elle rend de longues visites à Émilie et lui fait peut-être des confidences pareilles à celles qu'elle en recevait jadis. Elle est bien oubliée de son ancien suppliant, de ce pauvre Alvarez, qui cependant avait failli en mourir. Lui et son camarade Mendes sont retournés dans leur patrie, à Lisbonne. À peine débarqué, Alvarez est tombé amoureux de l'une de ses cousines, une orpheline sans fortune dont son père est le tuteur. Il l'aime comme un enragé, quoiqu'elle soit fort laide. Il veut à toute force l'épouser, quoiqu'elle soit encore plus pauvre. Sa famille en est désolée. Il n'y a ni exhortation, ni conseil, ni raison, ni exemple qui tienne. C'est une idée fixe, il l'adore. Il en est fou et abruti. Rien n'en fera démordre, car c'est une âme très tendre et bien bête. Ce beau Mendès, au contraire, a suivi une toute autre ligne. Paris, à ce qu'il paraît, l'a considérablement corrompu. Il y a, dans les derniers temps de son séjour, tellement fréquenté les lieux publics de toute espèce, si bien dansé, chahuté, cancané, mazurqué et polqué à la Chaumière, bu tant de petits verres, de demi-tasses, de bols de punch et de bouteilles de vin blanc, culotté tant de pipes et connu tant de femmes légères, qu'il en a rapporté dans son pays un genre tout à fait civilisé et parisien, des mœurs encore incomprises là-bas, un estomac prodigieux et des appétits effrayants. D'abord, il a commencé par écrire des billets doux à toutes les modistes de Lisbonne et par faire des dettes dans tous les cafés, sans jamais vouloir ensuite reconnaître les marmots ni solder les mémoires. Il troublait la société. C'était un scandale public. Il a fallu l'embarquer. Il fait en ce moment un voyage autour du monde et il promène sa flamme du Brésil au Japon et sa ribote d'un pôle sous l'autre. Il reviendra encore en meilleure santé, en plus belle humeur, et tout aussi stupide. Schauslischbach, hélas, est dans une bien triste position. Cet honnête Allemand, voyant enfin que les mathématiques ne voulaient pas de lui, avait fini par y renoncer, s'était tout bonnement mis caissier chez un banquier. C'était un excellent caissier, il en avait toutes les qualités requises, y compris la probité. Mais un beau jour, son maître a fait banqueroute et a pris la fuite, oubliant même de lui payer un mois d'arriéré sur ses appointements. Or, le procureur du roi est arrivé dans les bureaux, n'a vu personne et a empoigné notre ami qui, ne se doutant de rien, était assis à sa place ordinaire. On l'a arrêté comme complice. Il va passer devant les tribunaux. Il ira probablement aux galères. Morel aussi a eu d'amères désillusions. Lui cependant qui avait si peu d'illusions. Après avoir été successivement commis d'agent de change, clerc d'avoué, avocat, homme d'affaires, entrepreneur, industriel, avoir essayé de tous les métiers, travaillé dans tous avec ardeur, sans jamais y devenir riche ou célèbre, il est revenu habiter le hameau d'où il était parti jadis, et il a labouré le champ qui labourait son père. Il vit avec 1 500 livres de rente, en sabots, en veste de gros drap d'hiver, en blouse bleue l'été. Le soir, après le dîner, il libère Angers en fumant sa pipe, où il cause avec le précepteur et l'huissier du canton, auquel il redit ses vieux bons mots et raconte ses anecdotes plaisantes. Il leur parle de Paris, de toutes les belles connaissances qu'il avait, du monde qu'il voyait, des grands hommes qu'il a approchés de près, sans leur dire les humiliations qu'il a subies, ni tout le mal qu'il a enduré. Il est ennuyé, dégoûté, hargneux. Il souffre secrètement Mais il tâche de s'en consoler un peu en contredisant tout le monde et en faisant de l'opposition dans le conseil municipal. Le brave capitaine Nicole non plus n'est pas heureux. Il a acheté la fameuse petite maison tant enviée et il y demeure, mais il s'ennuie, il regrette la mer. Il regarde sans cesse d'où vient le vent et pense à son navire. Plus enviable vraiment fut le sort de son nègre, qui est mort avant qu'on le débarque, le jour même où il allait revoir sa cabane. Un homme admirable, c'est Ternande, ce jeune artiste qui fait toujours des chevaux à trois pattes, des arbres couleur chocolat et des chairs de mastic. Il a remporté le Grand Prix de Rome. Il est resté les 3 ans obligé et en est revenu plus insolent, plus tranchant et plus impertinent encore qu'autrefois. Il regarde les anciens maîtres comme de braves gens sans idées et les modernes comme des barbouilleurs sans talent. Ensuite, il avoue naïvement qu'il est le premier peintre de l'époque et l'on est presque tenté de le croire tant il le dit avec assurance. Il a un bel atelier tout orné de ses chefs-d'œuvre et rempli de pantoufles chinoises, de burnous arabes, d'arcs de sauvages, de casques rouillés, de pipes turques et de médailles romaines. Il s'adonne exclusivement au portrait. Il gagne beaucoup d'argent. C'est une célébrité. Le ciel aussi a comblé de ses dons M. et Mme Lenoir dans la personne de leur enfant. Il a gardé longtemps son costume d'artilleur. Ça lui allait si bien quand son papa lui faisait réciter des fables de La Fontaine dans les grands dîners. On a cependant été obligé d'y renoncer lorsqu'on l'a mis en pension. Ses maîtres du reste en sont satisfaits et envoient à tous les trimestres de bonnes notes à ses parents. Conduite bien, travail bien. À la dernière distribution, il a même remporté un second prix de thème et un accessit d'écriture. Mais l'ambition la plus assouvie, la vanité la plus satisfaite, c'est l'ambition et la vanité de Catherine, l'ancienne cuisinière du père Renaud. Après tout ce qu'elle a volé, tout ce qu'elle a pu attraper et ce qu'on lui a donné, elle s'est établie cabaretière sur le boulevard du Temple. Elle tribe au comptoir, porte un bonnet à ruban rose et se laisse courtiser par les habitués. Son commerce prospère, il y a même plusieurs messieurs qui demandent sa main. Mais elle n'est pas pressée, elle attend, elle veut choisir à l'aise et ne se décider que pour un bon parti. Elle a eu soin toutefois de se fournir d'un très beau garçon de café, qui a une superbe paire de moustaches rouges et une fort jolie voix pour crier « Voilà, voilà, servi, demande !» Quant au père d'Henri, oh, il est toujours classique, libéral, ennemi des jésuites et aussi du genre humain. Il déclame sans cesse contre les journaux et il serait frappé le soir d'une attaque d'apoplexie s'il avait passé la journée sans lire son journal. Le journal, mon journal. Il s'exaspère encore contre les romantiques, mais il admire les mystères de Paris et le juif errant. Il trouve ça fort et bien tapé. Sa femme en tout et surtout est invariablement de son avis. Savez-vous qu'Henri va faire un riche, un puissant, un superbe mariage? Oui, il épouse la nièce d'un ministre, celui dont le fils est son ami. On lui assure 200 000 francs de dot, et il en aura autant plus tard. Le voilà donc presque dans l'opulence et déjà dans l'illustration. Avant 4 ou 5 ans, il sera député. Et une fois député, où s'arrêtera-t-il? Jules est parti hier pour l'Orient, emportant avec lui 2 paires de souliers qu'il veut user sur le Liban et un Homère qu'il lira au bord de l'Hellespont. S'il passe par Alger, il rencontrera Bernardi, établi directeur d'une troupe de vaudeville et amusant les Arabes civilisés avec les couplets de M. Scribe et la prose de M. Bellesville et Bayard. Ici, l'auteur passe son habit noir et salue la compagnie. Nuit du 7 janvier 1845, 1 heure du matin.